Chère communauté, chers amis, comme Matthieu et Luc le proposent dans leur propre récit, Marc nous fait lire aujourd'hui une double histoire. Il réunit en effet dans un même récit la guérison d'une femme atteinte d'hémorragie et la résurrection d'une fille. Ces deux épisodes entremêlés exprime toute la force du Christ sur les puissances du mal et sa victoire définitive sur la mort. Les deux épisodes s'impliquent remarquablement bien l'un dans l'autre. Ils possèdent en même temps quelques traits assez complémentaires. La femme avait des pertes de sang depuis une douzaine d'années. La fille a 12 ans. Pour les deux personnages, c'est un geste qui les sauvera. Enfin, si l'une est mûrie par les ans, l'autre est une enfant. Le premier miracle est comme extorqué à Jésus. Le second est à son initiative. Les deux miracles sont liés à la vie. Pour les Juifs, le sang est profondément une marque de la vie. Et le second miracle, la résurrection, lui fait évidemment écho. Le premier miracle est étonnant dans la mesure où Jésus ne le commande pas. Il ne le décide pas. Il est touché par quelqu'un d'autre. L'Évangile ajoute deux détails significatifs. D'une part, la femme aborde Jésus par derrière, c'est-à-dire sans interférer dans sa marche, sans susciter une rencontre, en se cachant même. Et d'autre part, il lui suffit de toucher son vêtement. Le caractère minimal du contact recherché contraste avec celui du mal qui l'envahit depuis 12 ans. Il suffit d'un petit peu, d'un effleurement du vêtement de Jésus, d'une onde de présence au corps de Jésus, ce corps qui avance. Ce qui est essentiel dans cet événement, ce n'est certainement pas le merveilleux de l'histoire. Même s'il bouleverse ou étonne, c'est le salut qui est important. La femme le savait silencieusement. Jésus le proclame. Jaïr a été témoin avec tous les autres de ce qui vient de se passer et on lui annonce que sa fille vient de mourir et qu'il n'est sans doute plus besoin de déranger le maître. Cette réflexion sourde et douloureuse peut bien être la nôtre. Qui peut rendre la vie? Qu'y a-t-il de plus fort que la mort? Ne crains pas, crois seulement, dit Jésus à Jaïr. Arrivé au lieu où il devrait se rendre, Jésus prend avec le père et la mère de l'enfant 3 de ses disciples, les mêmes que nous retrouvons sur le mont de la Transfiguration et au jardin de Gethsémani. La résurrection qui va suivre est une transfiguration. Talitha cum. L'Évangile nous rapporte ici les mots de l'après-Pâques. Ce sont les mots de la résurrection et de la vie en Dieu. Ces textes viennent résonner en nous comme le rappel de ce que nous vivons depuis notre baptême. Nous avons été plongés dans la mort du Christ pour revivre avec lui. D'une manière ou d'une autre, le Talitha Kum a été prononcé sur chacun de nous par le Christ ressuscité lui-même. La parole de vie que Jésus nous donne aujourd'hui est une communion à Dieu. Nous sommes bien créés mortels, mais aussi immortels. Si notre mort corporelle est la fin de notre vie, de notre existence terrestre, la foi nous révèle que l'être vivant que nous sommes, dans sa singularité de personne unique, dans sa ne sombre pas dans le néant, nous sommes créés à l'image de Dieu, habités par son esprit. Dieu nous a créés mortels, mais aussi nous a créés êtres spirituels, destinés à vivre éternellement avec lui. C'est ce que révélera Jésus. Les évangiles rapportent comment il a accompli un travail de résurrection chez les personnes malades, paralysées, accablé par le chagrin, arrêté, bloqué, désespéré. Ces aspects de son œuvre de salut sont étroitement liés, d'où l'urgence de vivre à son exemple comme des êtres vraiment vivants, vivants de la vie de Dieu. La foi en Jésus-Christ ressuscité se fonde sur le fait qu'il a été une personne humaine qui fait surgir la vie. Il a ressuscité, relevé, réveillé, cultivé la vie avec passion. En cela s'enracine notre conviction que le travail de résurrection accompli de notre vivant ne s'arrête pas à notre mort, mais s'épanouit en vie éternelle.